antirouille.com. Antirouille métropolitain, grouille avant que ça rouille.
Marceau le matin.
Paper, sir, what do you want to be?
Marceau le matin.
8h46 à tous, un excellent mardi. C'est 11 degrés sur Québec. C'est le soleil qu'on a encore un petit peu, peut-être plus nuageux cet après-midi. On parle de 40% de probabilité d'averse. Même chose pour ce soir. Entre un 10, on nous annonce entre 10 et 20 mm pour ce qui est de ce soir. De la pluie. Ça va faire du bien. Des voitures qui ont été lavées. Ça faisait un bout que certains n'avaient pas été au lave-auto. Fait qu'avec l'eau qui nous a tombé sur la tête hier, ça a fait en sorte que la poussière a dégagé. C'est positif. Puis les cours d'eau aussi qui ont repris un peu leur lit là, et leur débit régulier. C'est le fun. 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route. 418-971-1021. Ça fonctionne par texto sécuritaire de le faire. Ben, faites-le, s'il vous plaît. Il se passe quoi?
Pas grand-chose. L'heure de pointe qui passe tranquillement. Reste Capitale Ouest entre Henri Bourassa et Laurentienne. Puis sinon, c'est le secteur des ponts. Là. Les deux côtés de la 20, ça va beaucoup mieux. Reste la 73 direction nord ou à partir de l'avenue de la Rotonde à peu près, ça ralentit. Et Pont de Québec aussi direction nord là, sur le pont directement. Il y a un ralentissement.
Une des plus grosses annonces au niveau municipal, parce qu'on est en élection municipale. Pour les gens qui ne le savaient pas, bienvenue en ville. Ça a été fait hier. C'est le maire Marchand qui a annoncé qu'on voulait déménager l'incinérateur de Québec, l'incinérateur de déchets de la capitale. On parle d'une promesse qui pourrait être chiffrée jusqu'à 1 milliard de dollars. C'est quand même un gros montant. C'est assez impressionnant. Si le maire Marchand repasse aux prochaines élections, ce sera un de ses projets. On a le plaisir de recevoir une de ses conseillères qui est en studio avec nous. Son nom, c'est Marie-Josée Asselin. Elle est à la gestion des matières résiduelles. Candidate dans Loretteville-les-Châtels. Madame Asselin, bon matin.
Oui, bonjour, bon matin.
Merci d'être là. C'est la première fois qu'on se rencontre.
Absolument.
Vous allez voir, on n'est pas si pire.
Ah, j'ai aucun doute.
Parlez-nous de ce projet-là d'incinérateur qu'on veut déménager. Expliquez-nous pourquoi l'incinérateur qu'on a ici à Québec. On comprend que c'est peut-être pas le meilleur des endroits, puis on voudrait peut-être le déménager à 1 km de là.
Bien, en fait, au-delà du fait que ce soit pas le meilleur des endroits, on le déménage pas pour le déménager. En fait, c'est une infrastructure, l'incinérateur de Québec, il faut se rappeler qu'il y a 50 ans. Comme n'importe quelle infrastructure, une usine de traitement d'eau, aqueduc, égout, ce sont des infrastructures qu'on doit entretenir, mais qui ont aussi une fin de vie utile. Puis quand on parle de l'incinérateur, il y a eu des grandes améliorations il y a une vingtaine d'années. On met de l'argent chaque année pour son maintien, pour qu'il continue à respecter toutes les normes environnementales, mais c'est comme quand on commence à avoir une voiture qui est vieillissante, puis on se dit « je continue à mettre de l'argent » là-dedans où j'envisage de m'en acheter une autre.
Est-ce que l'incinérateur de Québec représente un danger pour les gens qui sont aux abords de cet incinérateur?
Absolument pas.
Aucun danger.
Actuellement, il y a eu plusieurs rapports, dont Mon environnement, ma santé, de la Direction de santé publique, le groupe de travail sur les contaminants atmosphériques, qui ont déterminé que l'incinérateur, actuellement, n'est pas une source de polluants, qui est substantielle dans les quartiers centraux.
Parce que là, on parle d'un milliard. À quoi ça sert de le déménager s'il n'y a pas un problème?
Bien, en fait, il faut le reconstruire.
Ouais.
On ne prend pas l'incinérateur qui est là, non, puis on
le
déménage.
Ça coûterait moins cher.
On est à 600 à 900 millions de rénovations si on veut le maintenir. Et ça ne veut pas dire que dans 15 ans, on va avoir besoin de le refaire encore. Okay. Donc là, on mettait 10 millions par année. On en ajoute l'année prochaine, on va être à 20 millions par année. Mais l'important, c'est qu'on soit capable de continuer à opérer l'incinérateur actuel pendant la construction du nouveau, parce que les poubelles, ils disparaissent pas. Là.
Moi, Jeff et Max, on se posait la question ce matin sur le budget. T'sais, quand on évalue un budget pour rebâtir un autre incinérateur ou encore améliorer celui qu'on a là en faisant des rénovations, vous nous dites entre 600 millions et 900 millions de dollars, quand même un gap de 300 millions. Comment vous faites pour calculer de cette façon-là? C'est quand même... si j'accepte 600, je ne veux pas accepter 900.
Bien, en fait, on regarde ce qu'on a actuellement comme système, comme bris. Actuellement, sur chacun de nos 4 fours, l'incinérateur est à 4 fours, on a entre 40 et 50 jours par année où il y a des bris, où on doit arrêter un four. Pendant ce temps-là, on est obligé d'utiliser un plan de contingence, par exemple, pour aller enfouir quand l'incinérateur est fermé pendant un bout de temps. Tout ça, ça rentre dans les coûts d'opération puis dans les coûts qu'on estime devoir assumer. On a actuellement à peu près une centaine de projets à l'intérieur même de l'incinérateur qu'on devrait faire, améliorer les ponts roulants, améliorer la gestion des cendres volantes, des cendres de grilles sur du long terme. Donc, on a des audits qui sont en cours. On s'était donné un an pour faire vraiment le tour, pour dire, OK, qu'est-ce que ça prend pour le garder? Mais si on veut être encore meilleur, si on veut que nos normes environnementales soient encore plus top, si on veut être encore plus performant, la population de Québec va augmenter aussi dans les prochaines années. Et il faut travailler en parallèle la réduction à la source de nos déchets avec les éco-centres, avec l'économie circulaire. Mais on ne peut pas penser que l'incinérateur, on va le fermer demain matin, ouais, ou qu'on pourrait s'en passer pendant 2-3 ans le temps de construire d'autres choses.
Vous voulez le déménager à 1 kilomètre de là? Il serait à quel endroit précisément?
Il serait tout près de l'usine de biométhanisation. Parce que là, on parle de l'incinérateur, mais on a ce qu'on appelle le complexe de valorisation énergétique.
Les sacs mauves!
Absolument!
J'ai ça chez nous.
Qui comprend l'usine de biométhanisation, qui comprend le centre de récupération de la matière organique où on trie justement ces sacs mauves-là par lecteur optique, qui est vraiment une nouvelle infrastructure qu'on vient d'ajouter. Dans l'usine de biométhanisation, on va utiliser les boues des usines de traitement d'eau usée qui sont juste à proximité. Donc, les eaux usées... La matière solide des eaux usées arrive de l'usine de l'Ouest et pompée dans l'usine de l'Est. Et c'est ça qu'on envoie à la biométhanisation qui est l'autre côté de la rue. Donc, c'est un complexe de valorisation énergétique. Donc, la synergie entre les équipements est importante. On ne peut pas le déménager l'incinérateur dans le nord de la ville, par exemple.
Il faut que ça reste proche de nos infrastructures.
Il faut que ça reste proche. Ouais. Puis la vapeur qui va être produite, bien, elle sert aussi d'intrants en énergie pour d'autres usines qui sont autour. Donc, c'est vraiment un parc industriel où on pourrait utiliser l'énergie produite par les intrants, qui sont les ordures et les vidanges des citoyens.
Justement, par rapport à ça, j'ai deux questions, puis je commence avec les sacs mauves. Est-ce qu'on a trouvé là, le fameux procédé pour se débarrasser de ces sacs mauves-là sans les brûler?
Bien, en fait, actuellement, il y a plusieurs bancs d'essai qui ont été faits, puis on est la seule ville en Amérique du Nord à avoir ce genre de système-là. Mm-hmm. Donc, il faut se rappeler que ce sont des sacs dans lesquels il y a eu de la matière organique. Donc, c'est contaminé. C'est un peu gluant.
Oh oui.
L'odeur est au rendez-vous.
Oh, on a assez d'images. Je l'ai ouvert. J'ai ouvert ma petite poubelle le matin pour mettre mes coquilles d'œufs. Oh boy, ça sent. J'ai pas le choix de vider ça ce soir.
Ben, c'est ça. Mais quand on en ajoute plusieurs milliers ensemble, ouais, on boit tout ça.
Fonctionne-tu bien? Est-ce qu'on a un bon retour sur l'investissement?
On fera jamais d'argent avec ça. L'objectif, c'est pas d'être rentable. Ouais. Parce que faut traiter
ça. En tant que payeur de taxes, je m'attends à ce que vous soyez rentable.
Oui, mais la gestion des matières résiduelles, ça ne sera jamais un revenu.
Ouais.
L'objectif, c'est de faire le mieux possible avec ce qu'on a à gérer.
Mais si on rajoute des opérations tout le temps qui représentent toujours des coûts supplémentaires, à un moment donné, la capacité de payer de vos contribuables, elle commence à être diminuée.
Les brûler, ça représente des coûts aussi. Ouais. Les enfouir, ça représente des coûts aussi. Puis de toute façon, avec l'usine de biométhanisation, on n'avait pas le choix. Si on voulait continuer à recevoir le prix qu'on a du gouvernement du Québec pour la gestion de la matière organique, on avait deux choix. C'était le compostage ou les sacs mauves. Dans le contexte de la ville de Québec, avec du multilogement, un cadre bâti qui est super dense, du compost en plein milieu de la ville, c'était pas possible.
Madame Asselin, moi, j'ai une critique à faire.
Allez-y.
Je suis rendu à 6 rouleaux, là.
Oui.
Je suis tanné. Arrêtez de m'en envoyer.
Ben écoutez, on a déjà... Donnez-la à vos voisins.
Il y en a aussi 6. Il y en a beaucoup. Puis moi, actuellement à la maison, je suis tout seul. À part la fin de semaine, j'ai mes gars. Fait que ça ne se remplit pas au rythme que je voudrais bien que ça se remplisse. Qu'est-ce qu'on fait avec les rouleaux qu'on a en supplémentaire?
Vous pouvez les retourner à la bibliothèque de votre quartier. Vous pouvez les retourner à votre bureau d'arrondissement. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi signaler au 3-1 que vous en avez suffisamment puis ils vont arrêter de vous en envoyer.
J'ai une collègue qui ne sait pas vivre, là, qui amène ses sacs mauves, là, elle met son lunch dedans. Là.
C'est pas grave, ça.
C'est pas grave.
En fait, ce qui est grave, c'est de l'utiliser à mauvais escient. Quelqu'un qui amène là, sa boîte à lunch ou son costume de bain à la piscine dans un sac mauve.
Ça s'appelle Audrey Pinchot.
Oh, d'accord. Bonjour, Audrey. En fait, ce qui nuit, c'est par exemple quelqu'un qui va mettre quelque chose qui n'a pas d'affaire dans le sac mauve.
De la litière de chat.
Exactement. Ouais. Ça, c'est un des pires.
Parler à la personne qui est devant vous, là.
Ben là, c'était Toto Stoulé tantôt.
Oui, était pas là.
Hey, c'est grave. Même pas vrai.
Il a mis de la litière dans
faites
le sac mauve.
Faites pas ça pour vrai.
Elle était pas là.
Ben oui, mais c'est pas grave.
Ben non, mais là, j'ai
ben non, mais il faut qu'elle le sache.
Je fais face à la directrice de mon école, c'est ça, là?
Ben exactement.
Non, ben en fait, la litière, je peux vous expliquer. Faut pas faire ça. C'est parce que l'enjeu, c'est que, tu sais, quand on rajoute du liquide dans de la litière, qu'est-ce que ça fait, vous le savez?
Ouais, ouais.
Ça fait une roche.
Exact.
Puis au bout de la ligne, ce sac mauve-là, il se retrouve dans une espèce de vis sans fin où on vient broyer cette matière-là.
Ouais, ça fait plus.
Quand tu te retrouves avec une roche, là, ouais. Ta vis, elle jambe. Puis là, tu es obligé d'arrêter tout ton procédé pour aller chercher la roche de litière de quelqu'un qui a mis de la litière dans son sac mauve.
Mais je l'ai fait une fois. Faut pas faire ça, mais je l'ai fait une fois.
C'est correct. Ouais. On vous a pardonné. Bon. Mais il faut plus le faire.
Okay.
Mais...
Les sacs mauves, ils vont où? ils vont où?
Ouais, j'avais lu qu'on les brûlait, les sacs mauves. Ils brûlent-tu encore?
Le plastique des sacs, oui.
Oui.
Parce que là, actuellement, le procédé qu'on pourrait mettre en place serait extrêmement coûteux. Et c'est pas du nouveau plastique. Là, parce que si ces résidus-là n'étaient pas dans un sac mauve, ils seraient dans un autre sac de poubelle.
Mm-hmm.
Donc, on ne génère pas plus de plastique que de mettre ces résidus-là dans un autre type de sacs. On sait que ça fonctionne. On a fait des poubelles, on a fait des lattes de matériaux pour faire des bancs. On pourrait le faire à petite échelle, mais actuellement, de recycler 100 % des sacs coûterait beaucoup trop cher pour le gain environnemental qu'on irait chercher là, en recyclant ces sacs-là.
L'usine de biométhanisation, ça produit de l'énergie.
Oui.
Cette énergie-là, vous la redistribuez comment?
En fait...
L'hôpital, je pense.
Ça s'en va directement dans le réseau d'énergie.
OK.
On est branché directement dans la cour de l'usine de biométhanisation. Il y a un pipeline. D'énergie.
Ouais, pipeline,
ouais. On est branché direct dessus. Donc...
Allez-vous chercher des revenus avec ça?
Oui.
Oui.
On est à 6 ou 7 millions par année de revenus de vente de gaz à énergie.
C'est pas mal la cible que vous aviez au départ?
Oui, on était à peu près à 100 millions sur 20 ans. Donc, on dépasse nos cibles. Notre gaz est d'une qualité exceptionnelle. Donc, énergie valide toujours la qualité du gaz qu'on injecte. Parce qu'une fois que les sacs mauves sont traités, on produit trois choses, en fait. On produit du gaz naturel renouvelable. On produit une espèce de terre noire qui est du digesta, qu'on peut étendre en terre agricole comme matière fertilisante. Puis on finit avec une espèce de liquide qui est du sulfate d'ammonium, qui peut aussi servir de matière fertilisante. Donc, de votre sac mauve, ben on extrait trois sources renouvelables d'énergie ou de matières qui peuvent être utilisées en agriculture. Donc, c'est le bon geste à faire.
En terminant, Marie-Josée Asselin, cette usine, ce nouveau incinérateur qu'on veut bâtir, ce serait pour quand exactement?
On parle d'un horizon de 10 à 15 ans. Quand on regarde comment...
Le maire Marchand va-t-il être encore là?
Ben, on espère.
Allez-vous être encore là?
Je sais pas. Probablement pas. J'espère qu'ils vont m'inviter à l'inauguration quand même.
Ah oui, vous voulez couper le ruban quand même?
Ça va être un beau projet, mais...
Dans 10-15 ans, ça va-tu encore coûter un milliard?
Ben, c'est les estimés qu'on a actuellement. Mais tu sais, on se penche sur la question, on regarde nos audits, on va continuer à travailler en parallèle avec un plan de réduction à la source, on a amélioré nos éco-centres, on va continuer. Ouais. Tu sais, la gestion des matières résiduelles, je disais tantôt, ça touche 100 % des gens, ça touche les industries, les commerces, les institutions, 100 % des citoyens génèrent de la matière. Donc, il faut s'assurer qu'on a les meilleurs processus qu'on incinère. Ouais. L'ultime, c'est
puis
ce qui arrive au bout.
Vous allez la prendre, une partie que je donne au fédéral, une partie que je donne au provincial, puis une partie que je donne à Ville de Québec?
Absolument.
Y a-t-il déjà des programmes qui existent, gouvernement provincial, fédéral?
Bien, il n'y a pas de programme spécifiquement pour un incinérateur, parce que, tu sais, ce n'est pas toutes les villes qui en ont.
Mm-hmm.
On va devoir s'asseoir avec les deux paliers de gouvernement pour voir dans quel type de programme on peut s'inscrire. Mais c'est certain qu'on va avoir besoin de l'aide des paliers de gouvernement supérieur. Une infrastructure d'un milliard, c'est comme une usine de traitement d'eau. Ça coûte extrêmement cher. Puis il va falloir aussi s'assurer là, qu'on fasse un montage financier qui respecte la capacité de payer des gens de Québec. Mais si on n'incinère pas les ordures, il va falloir faire quelque chose avec. Puis l'enfouissement n'est pas une option en termes de coûts, en termes environnemental, puis en termes de capacité. L'enfouissement, c'est un trou, on le remplit quand il est plein, on en construit un autre à côté.
On a tout compris ce bout-là. On n'a pas de l'air vite, mais ce bout-là, on le comprend.
On est tellement intelligent.
J'ai aucun doute là-dessus.
Madame Asselin, là, vous êtes en campagne électorale. Vous avez serré combien de mains jusqu'à maintenant? Avez-vous compté?
Bien, j'étais à peu près à 4 000 portes, 4 000 citoyennes rencontrées.
Félicitations.
À part ceux qu'on voit dans les événements. Puis c'est un beau moment, cette période-là, pour aller voir les citoyens puis rencontrer les gens. Il reste à peine 2 semaines. On a été chanceux, la température était de notre bord. Ça a été un mois de porte-à-porte fantastique sous le soleil.
Marie-Josée Asselin, ça a été un plaisir.
Merci.
Merci. Au revoir. Marceau le matin. Marceau.